Radio Trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. En 2022, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, a décidé de traiter sous forme de 12 documentaires inédits les problématiques du monde rural. L'Occitanie reste une grande région rurale. 4 habitants sur 10, précisément 39%, habitent en zone rurale, où le chômage est moins important qu'en ville. Ces 4 habitants sur 10 représentent quelque 2,3 millions de personnes sur la population totale de 6 millions. 92% des communes d'Occitanie, soit près de 5000 d'entre elles, se situent dans l'espace rural. Elles représentent, par ailleurs, plus de 66 000 km², soit l'immense majorité du territoire régional. Les radios sont sorties des villes pour une virée dans nos campagnes, pour recueillir les témoignages des acteurs de nos ruralités, aussi riches que diverses. 12 documentaires sont disponibles sur les thèmes suivants: la désertification médicale, la disparition des services publics, l'intégration dans nos villages, l'électronisme, les difficultés de l'agriculture, la viticulture et le climat, l'accès à la culture, l'exode des populations, la campagne ça nous gagne, l'intercommunalité, où sont passées les écoles et les métiers qui se perdent. Aujourd'hui, la campagne ça nous gagne.
Bienvenue dans un nouvel épisode de Radio Trip en Occitanie, consacré cette fois au retour en grâce de la vie à la campagne. La période de Covid a permis à certains de prendre conscience de l'importance que peut représenter un bout de jardin ou une balade dans les bois. Les personnes que nous allons rencontrer dans le Lot ont senti ce besoin de nature bien avant la pandémie. Quittant Toulouse ou encore le Nord-Pas-de-Calais, ils ont choisi de construire leur vie dans un village. Pourquoi cette décision? Comment s'y sont-ils pris? Pourquoi la campagne incarne le seul environnement dans lequel ils peuvent développer leurs projets?
De même. Merci.
Au revoir. J'ai 23 cabécous. Oui, alors deux blancs plutôt.
Alors moi j'en voudrais 10 entre nous.
Entre les deux. Et un plutôt qui est crémeux
pour demain,
lundi.
Demain ou après-demain. Mais hein. Bon, pas trop dur quand même.
Radio Trip en Occitanie.
Voilà.
Un documentaire radiophonique proposé par Elisa Santis.
Bonjour.
Oui, bonjour. Montez.
Isabelle Moretti habite depuis 2019 à l'Albanque, un village lotois, avec sa fille de 5 ans.
Ah, d'accord, mais tu prends la chaise et puis prends la chaise à Rosa. Ouais.
Alors du coup, ça va le télétravail avec un enfant, justement?
Ah oui, non. Non. Là, je suis en vacances, en fait. J'ai sorti l'ordi parce que j'ai 2-3 bricoles à faire. Et puis, là, en plus, on est dans la cuisine. Mais moi, je travaille, en fait, en haut, au-dessus. Là, j'ai descendu l'ordinateur parce qu'elle est là, comme c'est les vacances. Mais je travaille quand elle est à l'école, en fait. Moi j'ai fait aménager les combles, c'est là que j'ai aménagé mon bureau, je vais vous montrer. En bas en fait c'était des caves, je les ai aussi faites aménager, enfin, elles étaient en partie.
Et
mais...
aussi en bas il y a nos chambres.
Voilà, en bas maintenant c'est les chambres, alors la maison elle est un peu biscornue parce que d'un côté là on est presque au rez-de-chaussée. En fait de l'autre côté on est au premier étage ici, voilà, donc il y a une partie qui est semi-enterrée. Donc en bas il y a les chambres, mais en haut donc j'ai fait aménager les combles et là il y a donc mon bureau.
Qu'est-ce qui vous a fait décider de partir finalement, de retaper la maison ici? Quel a été peut-être l'électrochoc ou l'élément déclencheur?
Ma fille.
Ouais, ouais. C'était avec l'idée que... Ben, que je préférais qu'elle grandisse à la campagne, en fait. Parce que moi, j'ai grandi dans le Lot.
D'accord, vous avez grandi où ?
À côté de Cahors, à Pradines, à la Bérodie. Et voilà. Et moi, après, je suis partie. Donc, j'ai vécu la plupart de ma vie ailleurs, en fait.
Vous avez quel âge ?
J'ai 49 ans.
D'accord.
Donc, j'ai vécu 30 ans à Toulouse, en fait. Hein, voilà, ou même plus, quoi. 30, non, ouais, plus, en fait. Et puis voilà, puis j'ai fait à Toulouse ou ailleurs, quoi. Mais voilà, puis après, quand j'ai eu ma fille, en fait, je me suis rendu compte que bah, si elle grandissait en ville, elle n'aurait pas ce à quoi moi j'ai eu accès et que je trouve très important parce qu'on le garde en soi toute sa vie, c'est le fait d'être en lien avec la nature, le fait de pouvoir courir sans qu'on vous tienne la main. Parce qu'en ville, on peut pas lâcher la main d'un enfant, en fait. Il y a des voitures, il y a des chiens, il y a des vélos, voilà. Et puis voilà, le fait d'être en contact avec la nature, en fait. Donc moi, ça me plaît. C'est une région que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai toujours été attachée à ça. Mais surtout, je mesure ce que ça fait d'avoir grandi dans ce contexte-là, en fait. Et même en étant, même en habitant une ville, pour moi, le fait d'avoir grandi à la campagne et d'avoir eu ce contact avec la nature, ça m'a toujours, je sais pas, ça m'a toujours peut-être stabilisée ou voilà, il y a un truc de cet ordre-là, quoi. Hein, quelque chose qui, dans ma construction, moi, ça a joué un rôle en tout cas. Ouais, je suis infographiste, hein, je fais de la communication visuelle, je fais beaucoup de web. Donc je suis travailleur indépendant en fait. Donc puis j'enseigne aussi par ailleurs, mais mon principal métier c'est ça. Et donc je peux travailler un peu de partout. D'ailleurs mes clients sont partout en fait, pas du tout spécifiquement dans le Lot ou à Toulouse. Et donc déjà quand j'avais la maison avant d'avoir ma fille, je venais des fois une semaine, 15 jours à n'importe quelle saison, même en hiver, voilà, juste pour plus être dans la ville, faire une coupure en fait. Et voilà, donc je faisais déjà ça, mais j'avais jamais franchi le pas de vraiment venir m'installer parce que toute ma vie sociale était à Toulouse. Une partie de ma vie professionnelle, mais bon voilà, encore une fois, ça c'est pas la contrainte la plus importante pour moi. Et donc voilà, mais quand j'ai eu ma fille en fait, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, avec un enfant tout petit, on profite très peu d'une ville, en fait. Enfin, en tout cas, moi, ben, j'étais à la maison beaucoup avec elle. On ne va pas prendre l'apéro dans une terrasse de café avec un bébé petit, quoi. Donc, et puis, je me couchais, du coup, beaucoup plus tôt parce qu'elle se réveillait tôt le matin. Voilà. Et donc, au final, je profitais plus du tout, en fait, de ce que la ville pouvait m'apporter. J'en avais du coup plutôt les inconvénients, à part bah, ma vie sociale, à part mes amis, quoi, disons. Et le reste, bah, c'était plus si intéressant que ça.
Ça va, Rosa ? Du coup, je t'ai pas écouté. T'es venue me voir tout à l'heure pour me montrer un truc. C'était quoi ? Ah, c'était l'intérieur de la baignoire, hein. C'est ça ? De ta licorne, c'est ça ? Ah voilà, ah oui, à l'intérieur et l'extérieur. Ah oui, d'accord, elle a changé de couleur en fait.
J'ai colorié.
Et tu l'as colorié, ouais. Ouais, ok, super. Très bien, donc nous avons une baignoire bleue, rose et rouge. Et marron et orange à l'extérieur maintenant.
Alors, moi je me suis rapidement, en fait, avant d'habiter ici, je me suis investie dans une association de l'Albinque qui organise un festival en été. Ça s'appelle Sulpic, l'association, et le festival s'appelle Estivoc. Donc c'est un festival occitan qui a lieu en été dans le village. Et quand on est graphiste, c'est pas très compliqué d'être bénévole dans une asso, parce qu'il y a toujours besoin de graphiste dans une association pour la communication. Donc j'étais là un été, j'ai vu le festival et j'ai trouvé que c'était sympa comme initiative, et donc j'ai proposé d'être bénévole en fait. Donc ça faisait déjà plusieurs années en fait que j'étais... ça faisait 2-3 ans que j'étais bénévole quand je suis venue m'installer. Donc quand je suis arrivée, j'avais déjà ces premiers contacts-là. Et puis, après, c'est un village. Donc, une fois qu'on est rentré dans un premier petit groupe de personnes, en fait, on peut vite tisser des liens avec d'autres. Ça va assez vite, en fait. Les gens vous connaissent assez vite. Voilà, donc après, il y a eu mes voisins, puis après, il y a eu l'école, au départ, la nounou, puis après, l'école. Et puis après, moi, je me suis beaucoup intéressée à ce qui se passait dans la commune, en fait, à la vie collective, à la vie municipale aussi, parce qu'il y avait les élections aussi, peu de temps avant... au moment où je suis arrivée, en fait, il y avait les élections. Donc, je me suis pas mal intéressée à tout ça. Petit à petit, il y a des projets qui se sont créés auxquels j'ai été, dans lesquels j'ai été, disons, conviée, quoi. Notamment un projet de tiers-lieu.
Oui, Corinne, bonjour, c'est Isabelle Moretti. Oui, vous aussi, ça va? Ah, ben, j'avais pas vu que vous m'aviez répondu. Et voilà, bon, mais c'était pour être sûre que vous aviez reçu le... Je viens de voir votre message. Bon, d'accord. Voilà. D'accord.
Alors, ce que j'ai trouvé, c'est beaucoup de sérénité. Le silence. La nature. Un environnement épanouissant pour ma fille et pour moi aussi. Et aussi cette société, en fait. Qui est très vivante et dans laquelle on peut vraiment faire plein de choses, hein, parce que on est moins nombreux et qu'il y a donc un espace, hein, il y a vraiment plein de choses à faire, et c'est peut-être presque plus facile en fait que dans une zone urbaine. Et voilà, et puis ce calme aussi, c'est vraiment puis voilà, je sais pas, on a les hirondelles là au-dessus de la maison, le chant des oiseaux le matin. Alors, il y a le chant des oiseaux en ville aussi, mais il y a aussi le bruit des voitures, quoi. C'est pas tout à fait pareil. Et alors, j'étais venue en sachant qu'il y aurait ça, tout cet aspect-là d'environnement, de nature, de calme, de silence. Enfin, moi, je suis très, très attachée au silence, en fait. Donc, ça, je savais que je le trouverais. Ainsi que l'environnement un peu privilégié pour ma fille. Mais par contre, je m'attendais pas à trouver une telle communauté, en fait, presque, une telle vie collective, finalement. Et bon, ça, c'est assez récent, hein, ça fait 3 ans qu'on est là, mais le projet de tiers-lieu, il est assez récent, et là, il commence à vraiment se lancer, il commence à fédérer des gens, etc. Et donc, là, je commence à mesurer, en fait, la richesse de ce territoire et le fait de pouvoir rencontrer autant de gens qui sont... qui ont envie de faire des choses, en fait. Et ça, finalement, c'est beaucoup plus facile, en fait, en zone rurale, pour ça. Parce que très vite, quand on a envie de faire un truc, il y a d'autres gens qui vont répondre, en fait. En ville, il y a tellement de choses, déjà, qu'on se perd un peu dans toute l'offre, peut-être, je sais pas, ou bien c'est difficile de se faire voir. Quand on a une initiative, c'est difficile de la faire connaître, peut-être, un peu plus. On a toujours l'impression, quand on est en ville, que ça va être plus facile parce qu'il y a plus de monde, mais en fait, pas forcément, quoi. Et là, ça, c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Cet aspect-là, je m'y attendais pas et j'en suis absolument ravie. Et d'ailleurs, ce projet de tiers-lieu, je réorganise un peu ma vie professionnelle pour pouvoir avoir du temps pour m'y investir en tant que bénévole, en fait. Parce que je trouve que ça aussi, c'est très précieux, en fait.
Oui, bonjour, c'est Isabelle Moretti. J'ai appelé tout à l'heure, je voulais réserver la salle des Ramon, je crois que Kenny a dû arriver peut-être. Merci. Il y a un long café ou une courte?
On peut se tutoyer?
Long. Long. Ah, oui. D'accord. Ouais, elle l'a déjà, mais je vais vous le redonner, ouais. Ouais, c'est pour réserver la salle Miramon, vous pouvez lui dire. Voilà. Merci. Bonne journée, au revoir.
Après, je crois qu'il y a aussi... J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de gens ici qui n'auraient pas du tout envie de partir, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont attachés au territoire, en fait. D'ailleurs, il y a pas mal de gens assez jeunes, comme vous, par exemple, et qui n'ont pas forcément envie de quitter le Lot, en fait. Alors que moi, j'ai grandi dans le Lot et on est... c'était évident pour la plupart d'entre nous qu'on allait partir, en fait.
Mais c'est toujours quelque chose qu'on entend. Moi, j'ai 28 ans et on est très peu... je suis dans un cours de danse.
Ouais.
Je prends des cours de danse. Et il y a très peu de personnes de l'âge de la petite vingtaine.
Ouais.
Souvent, les gens, ils partent à 18 ans et soit ils reviennent jamais... Soit ils reviennent plutôt lorsqu'ils ont la trentaine, quoi.
Ouais, ouais.
Et il y a quand même toujours ce truc de dire il n'y a rien dans le lot. On est obligé de partir, quoi.
Ouais.
Mais vous avez l'impression que c'est en train de changer ?
Mais en tout cas, l'argument, c'est il n'y a rien dans le lot, on est obligé de partir. Alors que moi, quand j'avais la petite vingtaine ou un peu plus, bon, la petite vingtaine, c'est la période des études, alors on est un peu obligé de partir de toute façon, mais... mais après, en travaillant, c'était « Ah non, mais moi, j'ai pas du tout envie de revenir dans le Lot. Il n'y a rien. » C'est pas « On est obligé de partir parce qu'il n'y a pas de travail. » C'est « On n'a pas envie d'y être parce qu'on s'emmerde, quoi. » En fait, c'est plutôt ça, quoi. On a envie d'être en ville parce que... Alors que là, moi, je rencontre des gens qui ont votre âge, quoi, et qui sont ravis de vivre ici et qui seraient ravis, à la limite, de pouvoir y trouver un travail s'ils pouvaient et qui, du coup, créent des activités. Et ça, je me rappelle pas d'avoir...
Et qu'est-ce qui... du coup, il y a ce truc de « on ne s'ennuie plus dans le Lot », du coup. À quoi, pourquoi on ne s'ennuie plus aujourd'hui dans le Lot ?
Je sais pas si on s'ennuie plus ou si peut-être on a... Maintenant, il y a peut-être l'idée qu'on peut ne pas s'ennuyer, même quand on est à la campagne, en fait. Alors que pour ma génération, la campagne, c'était un truc de vieux, quoi. Il y avait que des vieux, en fait. Moi, cette maison, c'était la maison de mes grands-parents, quoi. Je venais ici à l'Albinque pour voir mes grands-parents, quoi. Donc c'était un truc de vieux, il y avait pas grand chose à faire quand on était jeune, et puis tout se passait ailleurs, en fait. L'important se passait ailleurs. Est-ce que c'était vrai ou pas? Je sais pas, c'est un peu la poule et l'œuf, quoi. C'est-à-dire que c'était peut-être en partie vrai parce que justement tout le monde partait. Et c'était peut-être en partie faux, mais c'était l'image qu'on en avait, parce que c'était, on avait hérité ça, enfin on avait cette image-là du fait que, que voilà, c'était plutôt le territoire de nos familles, des anciens de nos familles, quoi. Et donc l'idée, c'était plutôt d'aller dans les villes, en fait.
Là, pour l'instant, t'as pas le droit d'entrer là-bas toute seule.
Comment vous appelez ?
Moi, je m'appelle la flingue, c'est toi qui dis.
Oui ?
Karine Benzema.
Gwen Rio, avec l'association Bubblegum, est installée dans le Lot depuis 10 ans. Alors que les premières années, l'association de spectacles itinérants était principalement nomade, elle a maintenant décidé de s'investir davantage sur place. En partenariat avec d'autres structures, Bubblegum veut transformer l'ancienne ferme qui leur sert de local en une friche agriculturelle qui mêlerait jardin d'insertion, atelier de construction ou encore lieu de spectacle.
Au début, on s'est dit qu'on était perdus parce qu'on a fait tout un tour. Je pense qu'on n'est pas pris le chemin le plus court pour venir.
Après, ça n'a pas encore... Enfin, ça a une adresse, normalement, 707, chemin de Camas, mais tous les GPS n'acceptent pas.
D'accord.
Donc on peut entrer par là, on chance.
Moi, je m'appelle Gwen Rio et je suis chargée de développement de l'association Bubblegum. On est basé à Camas, à l'Albinque, donc c'est une ancienne ferme à 1,5 km du bourg de l'Albinque, qui est un petit village, 1800 habitants, petit et gros à la fois. C'est le chef-lieu de la communauté de communes, un des deux chefs-lieux, mais à la fois c'est petit. Et alors, on est là parce que c'est à la base les terres familiales de mon compagnon, avec qui on a fondé Bubblegum, il y a un peu plus de 10 ans. Au début, on était à Toulouse, Et puis on est venu ici par envie de se déplacer en milieu rural, avec l'opportunité du fait que ça appartenait à son père. On a été très itinérants au début. Donc Babelgom, à la base, c'est une association culturelle itinérante. Et depuis le début, on faisait aussi ce qu'on appelle des boîtes à outils, c'est-à-dire se mettre nos compétences et nos outils au service d'autres événements, surtout milieu rural et périurbain. La base arrière de Babelgom, là, ça aurait pu à limite rester à Toulouse, puisque en étant très itinérant, on peut très bien passer de temps en temps dans notre camp de base, mais pas souvent. Après, là, c'est clairement déjà une problématique de foncier, c'est-à-dire que Toulouse, pour avoir un camp de base, il faut quand même avoir les moyens. Parce qu'il nous faut de la place, il nous faut des ateliers, il nous faut de quoi tourner en convoi, des bureaux, etc. Donc, d'où le choix au début, un peu par opportunisme, de venir ici parce que ça appartenait à la famille de mon conjoint. Ça, c'est le début de l'histoire. Et puis après, une fois qu'on est arrivé ici, on a trouvé que c'était très très bien comme camp de base. D'être au calme aussi après les agitations de l'itinérance. Et puis, pendant des années, comme je disais, on était très itinérants. Et ces dernières années, on a commencé à être un peu moins itinérants. Bon, et il y a eu le Covid qui nous a clairement enracinés, puisqu'on ne pouvait plus faire de festival. Et l'envie qu'on avait dès le début, mais qui n'était pas à notre agenda, on va dire, c'était très vite, on s'est dit, ce lieu, en fait, est plus qu'un garage et des ateliers. Ça pourrait devenir vraiment plus. Il y a du potentiel foncier et humain, en fait, ici, des belles dynamiques. En fait, dans le Lot, il y a énormément d'assos, il y a énormément d'artistes, donc il y avait des choses à faire. Mais au début, comme on était rarement là, c'était compliqué de construire quelque chose avec le territoire. Et là, depuis, on va dire, 3-4 ans, on a arrêté le festival itinérant en 2015. On a continué à faire de la logistique d'itinérance pour des projets itinérants d'autres gens. On a commencé à développer aussi un axe de construction de structures itinérantes qui est très prégnant maintenant. Et du coup, on a commencé à avoir plus de temps sur place.
Du coup, vous avez fait le tour en marchant déjà ?
On s'est garé là, juste derrière. Et du coup, on n'a pas fait un tour complet, on a fait presque trois quarts, on va dire.
Ok.
Donc l'idée, c'est de faire, dans cet endroit, un pôle de diffusion et de création culturelle. Donc avec des accueils en résidence, de la diffusion assez classique. Alors c'est pas une grosse machine, hein. On compte pas faire une machine à gaz, faire les choses assez modestement. Autour des cultures électroniques et du cirque surtout, ou du théâtre itinérant. Avoir un pôle jardin d'insertion, donc on aurait un jardin d'insertion qui s'installerait, bah là on s'approche tranquillement, qui s'installerait dans la combe en bas là, qui est à nous. Donc il y a 2 hectares de terre. Ce serait un jardin artistique et nourricier, donc maraîchage, bio, mais aussi plantes aromatiques. Il y a une distillerie locale en bio qui est très en demande de production, parce qu'elle distille mais ne produit pas beaucoup. Et il y a une grosse demande, on va s'approcher. Et le jardin maraîcher, du coup, là pour l'instant, on a 3 associations partenaires un peu piliers. Donc il y a nous, qui impulsons Babelgom. Ensuite, il y a Cultures électroniques, la Renarde. C'est vraiment des jeunes du coin, c'est une asso en plein essor, qui a déjà un salarié, qui vraiment être en plein développement. Et la dernière asso, c'est Kersi Contact, qui est une association d'insertion par l'emploi. Les Renards Culture Électronique, ils ont 25 ans en moyenne, ils sont une trentaine de bénévoles actifs dans leur asso. Et le salarié, il a 25 ans, je crois. Et l'autre association, Kersi Contact, là, on est sur une beaucoup plus grosse structure, où la moyenne d'âge des salariés est plus autour de 50 ans. Et les salariés du jardin, bon bah on verra bien.
On a commencé à planter des trucs. Il n'y a pas beaucoup pour l'instant.
C'est quoi, c'est des pêchers ?
Ouais, c'est des pêchers, là il y a un poirier, là il y a un... Je vois qu'il a perdu une branche.
On aimerait que ce jardin ait un design qui en soi soit remarquable. Et on aimerait faire de la diffusion artistique dedans. Pourquoi pas un parcours d'œuvres, pourquoi pas la diffusion de concerts, de ciné plein air. Enfin, il y a plein de choses à imaginer autour de le jardin. Et moi, j'ai aussi une casquette de metteur en scène et d'écriture de spectacle. Et j'aime beaucoup tout ce qui a trait, enfin, tous les formats qui sont complètement atypiques et qui sont dans l'espace public et notamment dans l'espace naturel. Je pense que le jardin peut être un super lieu de création, en fait. aussi pour des artistes. Nous, l'initiative, elle est partie avant le Covid, puisqu'on a fait une assemblée générale sur ce thème, ouvrir le lieu, on va dire 6 mois avant le Covid. Donc le projet, on l'avait déjà dans la tête. Ensuite, quand on s'est installé ici il y a 12 ans, on avait déjà envie d'ouvrir le lieu et de faire quelque chose d'hybride. On avait déjà visité des lieux comme ça. Donc moi, je pense que cette dynamique, elle existe déjà depuis de nombreuses années. Après, il y a une accélération qui est due, c'est sûr, au fait qu'on s'est posé pendant 2 ans, nous et plein d'autres. Et que quand on se pose, que nos activités s'arrêtent, ben on peut réfléchir, se recentrer, sur, se donner les moyens des ambitions qu'on a et qu'on a toujours mis un peu de côté parce qu'on était dans le flux, quoi. Donc ça, c'est sûr, c'est-à-dire qu'une envie comme celle-là, elle n'est pas du Covid, elle naît 12 ans avant. Par contre, à un moment, il y a le Covid et on se dit, bon, bah, cette envie, ça fait 12 ans qu'on l'a, on aurait qu'à y aller maintenant.
C'est sacrément poussé.
Vous les avez plantés quand ?
Il y a 3 ans. Mais vraiment, ils étaient bébés. Et là, il n'a pas vraiment poussé.
Pour nous, depuis le début, donc encore une fois, c'est pas lié au Covid, mais par contre, je pense que ça peut l'être pour d'autres gens. On a vraiment envie de faire ce lieu un endroit de résilience, c'est-à-dire un oasis. Alors, on n'est pas du tout survivaliste, hein. C'est le contraire, c'est se dire plutôt... Enfin, survivaliste, je veux dire, c'est le contraire de ce qu'on imagine les gens armés qui attendent la fin du monde pour se recroqueviller dans leur bunker. Donc, c'est pas ça l'idée, mais c'est se dire par contre que ça risque de pas s'améliorer les conditions climatiques. Peut-être aussi démocratique. Voilà, je sais pas. L'avenir, je pense quand même à certains côtés angoissants et incertains. Et je pense qu'en tout cas, ça peut être que positif pour la société de faire multiplier des initiatives citoyennes qui font du lien entre les gens et qui permettent de se réapproprier des savoirs de base, à savoir se nourrir, construire, se loger et se cultiver, qui sont pour moi l'essentiel, tous ensemble. Du coup, c'est vrai que le Covid nous a encore plus fait réaliser la nécessité de ça, mais on le pensait déjà. Et de se dire, ok, en fait, de pouvoir, dans ce lieu qui aujourd'hui est une friche, se dire, ben, il va être redynamisé, vivant, et que dedans, il y a aussi un jardin, un aspect pédagogique à ce qu'on veut faire, on veut vraiment impliquer les enfants. Que dans ce projet, il va y avoir, encore une fois, des savoirs agricoles, avec des bonnes pratiques, bio, permaculture, etc. Aussi avec les huiles essentielles, les plantes aromatiques, il y a aussi l'idée de se soigner, c'est ça. Qu'il va y avoir des ateliers de construction, on est vraiment sur des savoir-faire assez artisanaux de base, hein. Souder, construire avec du bois, etc. Plus tout ce qui est culturel, et tout ça, ça va se faire avec les riverains, avec les habitants, avec les écoles. Je pense que là, c'est nécessaire. En effet, avant, c'était... Enfin, je pense que c'était nécessaire aussi, mais peut-être on était moins nombreux à être persuadés. Là, je crois qu'on est de plus en plus.
Pas trop la peine, si tu veux. Je vais venir, c'est prévu. Tu veux descendre des cas au bar, déjà ?
Quand je vois là-bas, prison, je me dis que la buvette est en train de venir.
Ça va, c'est bon ?
J'ai mangé chez Jean-Luc et Monique.
Ah ouais ?
Oh, Jean-Luc, il est pas mort. Je suis reparti.
Ils ont pas parlé du boulot aussi, non ?
Ah putain ! Si Monique, oui, par contre, elle se lève tôt. Monique, elle bosse, je pense. Jean-Luc, je chambre un peu. Je fais, oh, toi, on sait pas trop ce que tu fais de tes journées.
Ouais, lui, si, il gère un peu. Les mecs, ils réparent des trucs.
Il est tranquille. Hein.
Bah ouais, mais il y a du sable à tête parce qu'il y a les poignes de dos ou je sais pas quoi là.
Ouais. Voilà. Tu l'as acheté là ?
Ouais, à Praline.
Je l'ai vu, dimanche.
Ouais, donc, vous rentrez sur le
ce matin en train de.
Vous vous occupez de la pluie du bon sens. Et ce soir, Claire, Bagnac.
Là, tu fais quoi ?
Allez, on va faire du vide, mais bien, on va
voir les clients.
Et Claire, je vais. Voilà, le pursuit, le terrain ce soir. Bon match à tous.
La campagne plutôt que la ville. Cette tendance se remarque depuis plusieurs années dans le village de l'Albanque. La maire Liliane Lugol observe la croissance régulière de la population.
Alors, au dernier recensement, c'était 1836 habitants, d'accord ? Le dernier recensement qui a eu lieu en 2020. janvier 2020. Mais si vous voulez, vous savez que l'INSEE ne raisonne pas comme ça. Hein. L'INSEE lisse la population entre deux recensements. Voilà. Donc ne vous étonnez pas si parfois vous trouvez 1836 ou si vous trouvez 1820 ou 1790. Voilà. Hein. C'est pas parce que c'est faux, c'est parce que si on prend les chiffres de l'INSEE, l'INSEE fait varier chaque année la population à cause d'un lissage qu'elle fait entre deux recensements. Voilà. Donc ça vous donne une idée quand même, on est à un peu plus de 1800 habitants aujourd'hui.
Et comment ça a évolué sur les dernières années ?
Alors pour vous donner une idée, en 75, c'est-à-dire il y a plus de 45 ans, la population était de 854 habitants, autour de 800 habitants. En 90, elle était toujours à 878 habitants. Donc toujours très, très en dessous de 1000 habitants. Et ça a commencé à décoller au début des années 2000, en fait. Au début des années 2000, en 99, il y avait 1068 habitants. Et en 2010, c'est-à-dire 10 ans après, 1619 habitants. C'est-à-dire que en 10 ans, la commune a pris 600 habitants. Et maintenant, elle vient d'en prendre 200. Voilà. En gros, c'est ça, si vous voulez. Dans le démarrage, c'est les années 2000, et c'est très simple, c'est l'ouverture de l'autoroute.
Alors, qui sont les nouveaux profils, les personnes qui viennent habiter à l'Albenque ?
Eh bien, écoutez, je crois pouvoir dire, parce qu'on a quand même pas mal étudié ça, même si on n'a pas fait vraiment de statistiques précises, il y a pas mal de jeunes retraités, c'est-à-dire des gens qui arrivent, qui ont 65 ans, 60 ans, etc., bon, et qui avaient repéré... Alors, soit ils ont des liens avec la région, avec le coin, là, des grands-parents dans les villages autour, etc. Soit c'est des gens qui étaient venus en vacances dans le coin et à qui ça a plu et qui, lorsqu'ils ont voulu se poser en dehors de la région parisienne, par exemple, eh bien, sont venus ici. Voilà. Mmh. J'en connais plusieurs comme ça. Hein. Voilà. Et même, alors, il y a pas mal de gens, donc de la région parisienne, bien sûr, et aussi du Nord. On a pas mal de gens du Nord qui sont venus s'installer. Voilà. Alors ça, c'est une première population importante, hein, je crois. Hein. Mais il y a aussi des jeunes couples qui sont venus s'installer. Il y en a pas mal, mais il y en a moins que des personnes âgées, je pense. Mais nous, d'ailleurs, on l'avait dit, même pendant la campagne électorale, parce qu'on avait senti le phénomène, on voudrait attirer justement des jeunes couples avec des enfants. D'autant plus que maintenant, à l'époque, on ne le savait pas trop, c'était avant le Covid, donc vous voyez, c'était le tout début, mais maintenant, vraiment, ça se développe, hein, le télétravail. Donc, on pense que c'est des gens, et on en connaît déjà, qui peuvent aller à Toulouse, mettons, deux fois par semaine, et qui, le reste du temps, peuvent travailler de chez eux, quoi. Hein. Donc, c'est une population qui peut très bien venir ici, où les loyers sont beaucoup moins chers qu'à Toulouse, le terrain, n'en parlons pas, le logement, où l'école, et quand on a une école importante, on a même un collège maintenant. Tout ça, c'est des facteurs d'attractivité qui font...
Le collège, il est à l'Albenque même ?
À l'Albenque même, oui. D'accord. Donc, on a, voyez, tout ça, c'est des facteurs d'attractivité qui sont importants. L'important, c'est d'avoir une sortie ou une entrée d'autoroute tout près du village, qui, en fait, d'ailleurs, n'est pas sur la commune. Hein. L'autoroute ne nous rapporte absolument rien financièrement.
Elle est à combien de kilomètres, la sortie ?
4 kilomètres. Voilà. L'autoroute, l'entrée, la sortie d'autoroute est à 4 kilomètres. Donc, c'est vrai, c'est un gros avantage, bien évidemment. Et en plus, maintenant... Il y a un deuxième avantage, c'est qu'il y a une gare qui n'est pas non plus sur notre commune, mais qui est vraiment, alors là, il y a des terrains qui sont sur l'Albenque et d'autres qui sont sur Fontaine. C'est le chemin de fer.
Le chemin de fer, il est à combien de kilomètres ?
Alors, le chemin de fer, il est plus proche, hein, il est à 3 kilomètres. Et d'autant plus que cette année, la région, c'est-à-dire depuis septembre dernier, enfin, c'est pareil, hein, mais enfin, moi je raisonne beaucoup en année scolaire, de septembre à juin, parce que les vacances, bon, tout est un peu au ralenti. Donc depuis la rentrée dernière, quoi, scolaire, il y a 11 arrêts à la gare de l'Albenque. 11 arrêts. Alors dans un sens et dans l'autre. Hein. C'est-à-dire c'est un train alors, qui est plus ou moins rapide, il y a plus ou moins d'arrêts selon les trains, hein, mais qui vont vers Cahors, ensuite vers Brive, du côté vers le nord, quoi, et puis vers le sud. C'est un train qui s'arrête, je vous donne les grands arrêts, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, hein. Mais c'est Caussade, Montauban et Toulouse. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un gros avantage.
Je comprends cette jeune femme On va revenir dans 5 minutes.
Nous, c'est Albas. T'as Albas, Saint-Paul-de-Loubressac, Pradine qui reçoit, voilà. T'as Concorès et t'as Flognac.
Ok, d'accord.
Moi, je ne sais plus où j'en suis, moi.
C'est trop compliqué, ces feuilles de
c'est moi qui termine.
Non, non, non.
Avec mon camion frigo.
D'accord.
Il y a 5 et Valérie.
Oh, il est bon.
Concorès Saint-Paul. Et vous écoutez parce que sinon je répéterai pas. Franck, Jean-Denis contre Grégory et Bérénine. Bérédice là. Voilà, Bérédice, excusez-moi. Hein? Ouais, Bérénine. Terrain 2, Delphine, Jean-Noël, Steve, Jean-Marie. Il y a le 3, hein, le 3, excusez-moi. Parce que, ouais, parce que le 2, on le laisse libre. Parce qu'il n'y a que 3. Terrain 5, Claude, Marie, contre Cédric et Nathan.
Ce village n'est pas le seul à attirer des jeunes adultes dans le Lot. À Concos, à quelques kilomètres de là, Quentin Bess, 25 ans, pâtissier, et Thibaut Pêche, 37 ans, boulanger, se sont associés. Après avoir travaillé comme ingénieur, Thibaut a choisi de se reconvertir et de reprendre la boulangerie de son village natal.
Terrain 7.
Terrain sec.
Il y a un petit pont ou quoi?
On va chercher quelque chose, sinon on peut préparer un pont de baguette et puis deux petits gâteaux. Non, un petit gâteau.
Allez, moi je ressors parce que. Bonjour! La...
Bonjour!
Bonjour!
Bonjour. Ça s'amuse. T'as tourné, mon frère?
J'ai cherché quand même.
Il y a deux, il y a mon copain. Et mademoiselle, c'est peut-être avant nous.
Non, non, c'est bon.
Vous m'entendez?
Un,
oui. Deux,
un,
deux.
Oui. Tu mets, bah, tu mets un logique.
Tu mets trois cafés, là.
Ouais, trois cafés en plus, ça
va. Tu as dit bon chocolat, mon frère?
Nous, c'est les princesses qu'on va s'asseoir. Là, genre, il va nous amener le café. Non, bah non, quand même.
Si tu veux,
Yves, tu veux arrêter? Ah non, sinon, vraiment pas.
Est-ce que je peux aller voir Thibaut? Il est là?
Vas-y, il est là.
Ok, merci. Salut! Hey,
bonjour.
Ça va?
Ça va et toi?
T'as quasiment terminé?
Là, j'ai production, j'ai terminé.
Comment ça s'est fait,
En fait, je savais que j'ai appris que le boulanger il partait à la retraite. Et il partait à la retraite à peu près moi au moment où je faisais mon projet, en fait, finalement. Donc en fait, ça s'est fait comme ça. J'ai appris ça et puis j'ai commencé à entamer les démarches, à discuter avec le boulanger d'ici. Après, je suis venu travailler ici pendant un été. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, en fait.
C'était il y a combien de temps, ça?
Alors ça, c'était il y a... Ça a démarré, ça, il y a un an et demi, peut-être. Un bon an et demi, parce que ça, en fait, c'était avant que je démarre vraiment le CAP, là, vraiment à travailler sur le CAP. Alors moi je suis né à Cahors et après j'ai grandi dans ce village là en fait. Mon école primaire j'étais faite à l'école de Concos, enfin, qui était regroupée du coup avec Varère tout ça, mais donc vraiment dans ce coin là. Et après c'est que à partir de la fac où j'ai commencé à partir du Lot quoi.
T'es allé à la fac où ?
À Toulouse.
À Toulouse, pour faire des études de quoi ?
Alors c'était des études scientifiques sur la thermique. J'ai fait des études de thermique. Voilà.
Qu'est-ce que c'est la thermique ?
La thermique, c'est l'étude des transferts de chaleur, la température, juste comme ça.
Et après tes études, tu as fait quoi ?
Donc après, en fait, j'ai fait un master à Toulouse et après j'ai continué sur une thèse, qui était une thèse chiffre, donc avec une entreprise. La thèse, elle était à Lyon et mon entreprise était dans le Nord-Pas-de-Calais. Et quand j'ai terminé ma thèse, l'entreprise, elle m'a embauché ensuite donc dans le Nord-Pas-de-Calais.
C'était quelle ville ?
C'était un village, c'était vraiment un village.
À côté de quel village ?
C'était à côté de Arras.
Après, dans le Nord, les villages sont beaucoup plus gros.
Les villages sont beaucoup plus gros, la population est beaucoup plus dense. C'est vrai que pour nous, ce que nous on appelle un village, pour eux ça n'existe pas. 400 habitants, ça n'existe pas dans le Nord. C'est tout de suite 1000 habitants, un village.
Voilà. Et nous, leur village, c'est nos petites villes.
Voilà, c'est ça. Pour nous, on appelle ça les petites villes. Ouais. Ouais.
Et donc, vous êtes resté dans le Nord-Pas-de-Calais combien de temps ?
4-5 ans, je ne sais plus exactement, mais 4 ou 5 ans.
4-5 voilà. Ans. Jusqu'au moment où, qu'est-ce qui s'est passé ?
C'était un métier. Moi, à la base, en fait, ingénieur, je l'ai fait parce que, en gros, j'étais bon à l'école et que on m'a poussé à continuer à faire des études comme ça et que en fait arrivé à la fac tout ça, d'ailleurs si j'ai continué sur une thèse parce que j'avais un diplôme mais je savais pas quoi en faire, donc j'ai continué sur une thèse et en fait c'était une thèse chiffre et donc j'ai continué sur la boîte tout ça, mais en fait c'était pas des métiers qui m'intéressaient, les métiers de l'ingénierie comme ça c'était pas des métiers qui m'intéressaient vraiment, donc du coup j'étais pas bien dans ce métier là et j'avais envie de changer. Le déclic, on va dire, le truc qui m'a fait dire là, j'ai envie de changer, donc je vais démarrer à travailler sur ce projet-là, c'est quand je me suis rendu compte, en fait, que dans la vie dans laquelle j'étais, le dimanche soir, en fait, j'étais en grosse déprime. Pour aller au boulot le lundi, j'avais vraiment pas envie d'aller au boulot le lundi, et tous les dimanches soirs, j'étais en grosse déprime. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas une situation qui est normale à vivre, en fait. Et donc, faut que tu trouves un change en fait, faut que tu changes de vie et tout. C'est plus ça en fait, mais ça a pas été une révélation qui s'est faite sur un coup, c'était un truc un peu plus long et au bout d'un moment je me suis dit mais pourquoi est-ce que le dimanche soir t'es pas bien et après tu te poses des questions effectivement sur ta vie ou est-ce que ça vaut vraiment le coup de pas être bien comme ça juste pour être confortable dans une situation confortable ou est-ce que finalement est-ce que le confort t'en a vraiment tant besoin que ça quoi. Et de l'autre côté le métier de boulanger c'était un métier qui m'intéressait depuis très longtemps et donc du coup bah en fait c'est un projet après qu'a mûri enfin l'idée de vraiment changer, de se forcer à changer de métier, de faire une reconversion, ça a mûri un peu. Et en fait, ça a coïncidé avec l'arrivée du Covid. Mais en fait, mon projet, moi, personnel, il était déjà bien entamé de ce point de vue-là. Mais il se trouve qu'après, c'est tombé au moment du Covid. Et voilà quoi. Moi, j'avais déjà fait des essais pour voir si le métier, si je me sentais être capable de démarrer ce métier-là à mon âge, parce que c'est quand même un métier qui est physique et tout ça, et moi j'avais fait que du travail en bureau, donc c'était quand même un peu particulier. Donc j'avais été faire des stages en quelque sorte dans des boulangeries à ce moment-là pour voir, et tout ça je l'avais fait déjà bien avant le Covid, donc j'avais déjà l'idée de le faire. Simplement dans ma tête, je pensais que j'allais prendre peut-être un an de plus avant de me lancer. Le Covid en fait m'a fait accélérer le projet en fait.
Si la boulangerie, s'il n'y avait pas eu de repreneur, il y aurait eu qui ?
À Concos, personne. A priori, il n'y aurait eu personne. La boulangerie aurait fermé, il n'y aurait plus de boulangerie dans le... à Concos.
Et ça, vous en pensez quoi, qu'il y ait personne ?
Bah, c'est sûr que ça fait pas forcément plaisir de voir un commerce se fermer dans un village de campagne comme ça, surtout une boulangerie, qui sont des commerces assez symboliques en fait. En France, une boulangerie, un village sans boulangerie, c'est un village qui est presque mort, quoi. Déjà qu'il n'y a plus de bistrot à Concos. Boulangerie, bistrot, c'est vraiment les deux commerces qu'il faut avoir dans un village pour considérer que le village est vivant, quoi. Donc c'est sûr que c'est important de pouvoir conserver ce genre de commerce.
Et ça, c'est donc au début de chaque vie.
Ouais, je remplis, je mets la farine, je mets tout ce qu'il faut, quoi. Et puis après, je lance le pétrin. Donc il est automatique, donc en fait il a deux vitesses, une vitesse lente qui dure pendant 15 minutes, et au bout des 15 minutes, là, t'as la vitesse 2 qui s'enclenche, qui est une vitesse plus rapide qui permet de donner plus de force à la pâte.
C'était forcément dans le Lot que vous alliez revenir ?
Non, c'était pas forcément dans le Lot, mais disons que le Lot c'était ça m'intéresse, enfin... c'était à la campagne en tout cas, ça c'est sûr, c'était une campagne du sud de la France. Ça correspondait à ce à quoi j'ai grandi en fait, je voulais retourner un peu vers ce genre d'atmosphère là, plus que la campagne du nord, c'est pas du tout les mêmes genres de campagne déjà, parce que comme on disait, c'est beaucoup plus dense, c'est pas les mêmes paysages non plus. Donc en fait, moi dans mon idée, effectivement le Lot, ou alors j'aurais peut-être été plus du côté des Pyrénées ou des choses comme ça, mais en tout cas dans une campagne un peu je sais pas comment dire, sauvage.
Je fais les entailles et après... et je referme, et ça je le fais jusqu'à ce que j'ai rempli tout le four, quoi.
Nous, c'était vraiment plutôt l'idée de vraiment s'installer quelque part et de s'installer dans un village qui soit pas gros en fait. On voulait pas quelque chose de trop gros. On avait l'opportunité d'aller à l'Allemagne par exemple. L'Allemagne, ça commençait déjà à devenir un peu trop gros pour nous par rapport à comment on envisageait le métier en fait.
Pourquoi vous voulez un petit village ?
En fait, on se voyait pas à la tête d'une entreprise avec beaucoup de salariés. On voulait pas trop avoir à gérer de salariés tout ça, on voulait plutôt travailler quoi, en fait. C'était plutôt ça l'idée. C'est un projet de vie en fait, quelque part. C'est que l'idée pour nous, c'est pas forcément de gagner beaucoup d'argent, c'est plus de faire le métier qui nous plaît dans le cadre qui nous plaît.
Moustiquaire pour un lit à baldaquin.
Ah, il y a un embouteillage de caisse. Bonne
C'était Radio Trip en Occitanie. Un documentaire radiophonique proposé par Elisa Sontis. Avec la participation de Isabelle Moretti, infographiste à l'Albank. Liliane Lugol, maire de l'Albank. Thibaut Pêche, boulanger à Concos. Gwen Rio, de l'association de spectacle itinérant Bubblegum. prise de son et entretien, réalisé par Elisa Santis à Concos et l'Albanque dans le Lot, entre le 1er juin et le 8 septembre 2022.
Ah ben il arrive pas. Mmh. Eh, t'as pas le droit de les manger.
Non, mais...
Oh non. Non, tu peux pas faire ça, chérie. Parce que les gens, ils touchent tout. Et après, tu vas avoir plein de tensions.
Montage et mixage, François Berchenko et Elisa Santis.
Alors, ça, c'est du
mail. C'est assez gros, hein. C'est quand même un gros machin. Lui, il a beaucoup de... aussi beaucoup de choses. Il a des parcelles différentes. Ça fait que suivant ces parcelles, si vous voulez quelque chose avec du goût, ça va être très léger.
Ah, ça sera plus de goût.
Voix off,
et si vous voulez encore
Elena plus, Rodriguez.
Ouais, mais je le connais, la phage, parce que on le, à voilà. La guinguette, la nuit des étoiles, c'est ouais. Le vin qui ferme.
Ouais.
C'est pas mon pâté.
D'accord.
Pas
non, c'est pas grave. Il
nous
manque du punch dedans.
Ouais, je...
Alors là, vous avez trouvé peut-être un peu léger aussi. Dans ces cas-là, il vous... Ah, je sais pas.
Après, je vais peut-être... on va goûter. Hein. J'aime bien l'étiquette.
Ouais, ouais, ouais,
je
ouais.
Choisis des fois l'étiquette.
Ouais, ouais.
Mais
bah, goûtez. Hein. De toute façon, c'est,
mais oui,
c'est bien
goûte.
Fait. Hein.
Bah, oui, oui.
C'est bien fait, mais...
Un café. Allez, un café.
C'était Radio Trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. Les radios du CRLO ont quitté leur département de diffusion pour aller à la rencontre de nos campagnes afin que ces acteurs puissent s'exprimer sur les difficultés mais aussi les réussites de cet arrière-pays qui doit faire face aux mouvements de la société et les difficultés qu'elle provoque. Mais le monde rural ne s'en laisse pas compter et trouve des réponses avec l'engagement de ses citoyens et de sa population de façon exemplaire. Radio Trip en Occitanie, une série de 12 documentaires proposés par les radios du CRLO en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Retrouvez l'intégralité de ces 12 documentaires en podcast sur les sites web des radios du CRLO ou sur le site du CRLO, www.crlo.fr.